Nous arrivons maintenant à la session des questions et réponses avec à mes côtés donc le général commun, c'est José Rosé Maria Aranaz. Donc c'est parti pour un premier set de questions, deux questions ici à Kinshasa. Oui, monsieur. Oui, là-bas.
Merci madame. Merci madame pour la parole. Monsieur Papi Bouené, journal télévisé Congo Info. Alors, je viens d'entendre comment monsieur nous a expliqué les retours des Kassaïens qui avaient fui les troubles. Alors, j'ai juste une question à poser. Est-ce que la MONUSCO a déjà prévu quelque chose comme aide pour accompagner les Kassaïens qui rentrent dans leur village d'origine?
Alors, je vais plutôt demander à mon collègue Joseph de répondre à cette question, car comme vous le savez, les questions humanitaires relèvent plutôt de l'équipe de pays.
Et comme on le disait, les fonds qui ont été reçus sont affectés à des projets d'assistance en faveur de ces déplacés du Kassai. Bien sûr que dès le départ, les financements qui avaient été reçus, c'était en rapport avec le mouvement des déplacements. Mais comme ces populations sont en train de revenir, je pense qu'au nom de la flexibilité, les acteurs humanitaires pourront voir dans quelle manière ils peuvent redéfinir l'intervention pour orienter cette assistance plutôt vers ces personnes qui sont en train de revenir. Et comme on l'a dit, il y a encore beaucoup de besoins parce qu'on n'est qu'à 37% de financement jusqu'à là pour les 64 500 000 requis pour assister ces vulnérables de la crise du Kassai.
Oui, monsieur.
Merci, c'est Venant Vaudissa de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Ma question s'adresse au général. Mon général, par rapport aux affrontements des Kamanyola survenus à Kamanyola dans la province du Sud Kivu, qui a coûté la vie à 38 réfugiés burundais, selon vos investigations, parce que les uns parlent, les uns pointent du doigt les groupes armés qui sont présents dans cette région, et d'autres parlent, pointent du doigt pour être précis, les forces régulières. Selon vos investigations à vous, qui seraient les auteurs de ces massacres et qu'est-ce qui pouvait motiver ce genre de massacres qui discréditent quand même la crédibilité de notre pays? Merci.
Oui, merci pour votre question. Comme vous le savez, nous avons actuellement une enquête qui est en cours sur ce qui s'est passé dans cette région. Monsieur le représentant spécial adjoint Gressly était sur les lieux dès le lendemain ou le surlendemain. Il y a eu, à l'évidence, un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité, ce qui a été mentionné dans le communiqué qui a été émis par M. Mamman Sidikou, le représentant spécial. Donc, c'est un fait que nous avons observé et qui est une réalité. Je rappelle que, même en état de légitime défense, tout homme, toute force investie d'une responsabilité de sécurité et de protection doit user de cette force de manière proportionnelle et justement adaptée à la menace à laquelle elle fait face. Le second point, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce que vous avez appelé un massacre? Les circonstances sont actuellement en cours d'examen par les équipes que nous avons envoyées sur place pour mieux déterminer l'origine de ce qui s'est passé. Mais je vous renvoie également à un certain nombre d'articles qui ont été publiés dans la presse nationale ou la presse de ce pays et qui décrit les choses telles que vous et nous, nos auditeurs et les lecteurs de la presse, en ont eu connaissance jusqu'à présent. Voilà donc ce que je peux vous dire pour répondre à votre question.
Merci, mon général. Nous allons maintenant nous rendre à Goma pour deux questions.
Merci, Jérémy Diambo de la radio Taïna Goma. Ma question est de savoir, nous avons appris et vous l'avez annoncé avec pompe qu'il y aura une réunion spéciale par rapport à la RDC au Conseil des Nations Unies à New York. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça?
Alors, en effet, donc clarifions les choses. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, donc je vais résumer. Donc, c'est une réunion qui s'est tenue hier à New York en marge de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une réunion qui donc était consacrée à la République démocratique du Congo avec les participants évidemment des Nations Unies, puisque cette réunion était à l'initiative des Nations Unies, d'organisations régionales comme l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté de développement de l'Afrique australe, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, l'Organisation internationale de la francophonie. Et à cela, on ajoute les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et également un représentant des Pays-Bas. Donc ça, c'était pour la participation. À l'ordre du jour, c'était il s'agissait de discuter de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, les participants ont donc réaffirmé le rôle central de l'accord du 31 décembre et ont appelé à sa mise en œuvre intégrale afin d'arriver au but que nous recherchons tous, c'est celui de la tenue d'élections libres, justes, crédibles et pacifiques. Alors, pour pouvoir faciliter ce processus, ils ont retenu l'idée d'une approche coordonnée, donc qui impliquerait à la fois les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la SADC, qui pourrait venir en soutien à la Commission nationale électorale indépendante. Et pour ce faire, une équipe d'experts va être constituée. Elle va regrouper des experts de ces différentes organisations et qui seront chargés de faciliter le soutien nécessaire à la fois au niveau politique, technique, financier et logistique. Voilà ce qu'il faut retenir essentiellement de cette réunion. Le reste, comme je vous l'ai dit, vous sera distribué à la fin de cette conférence. Une deuxième question à Goma ?
Je suis Benjamin Moulouba, journaliste indépendant. Ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Que peut-on dire de la politique de la MONUSCO concernant l'employabilité des jeunes du territoire des Yamasisi à travers leur recrutement dans des ONG et associations à la hauteur de 50%, parce qu'à présent, ils sont en train de manifester. Ils veulent chaque fois barricader la route principale de Goma-Sakié. Même ils empêchent la circulation des véhicules de la MONUSCO il y a de cela plusieurs mois.
En effet, mes collègues ont attiré mon attention sur cette information. C'est une affaire qui concerne nos collègues de l'UNOPS. Et d'après les informations que nous avons obtenues de l'UNOPS, l'UNOPS nous dit avoir tenu ses engagements d'employer au moins 50% de personnes recrutées localement. Voilà. Mais voilà ce qu'on peut dire. Donc oui, nous sommes au courant et voilà la réponse que l'UNOPS nous a apportée. Nous revenons ici à Kinshasa pour deux autres questions. Sur ma droite, voilà.
Merci. Moi, c'est Flavien Mstance pour le compte de Planète Télévision. Florence, je reviens sur la situation qui s'est passée à Kamanyola sur le plan humanitaire. Les gouvernements accusent les réfugiés qui hébergeaient les éléments des groupes armés. Maintenant, quelle est la réaction des ACR suite à cet problème? Merci.
Alors, notre collègue Simon Louboukou du HR est présent dans la salle. Il va répondre à cette question. Est-ce qu'on peut donner un micro à Simon?
Merci. Vous parlez des accusations. Comme on a dit tout à l'heure, nous sommes en pleine période d'investigation. Donc, il serait difficile maintenant et aujourd'hui de confirmer ce que vous venez de dire. Juste pour information, le HCR n'est pas présent à Kamanyola. Nous avons un bureau à Uvira et à Mboko. Donc la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile à Kamanyola, nous suivons au loin. Donc pour l'instant, on ne sait pas confirmer ou infirmer cette information par rapport à la présence des éléments armés. Merci.
Je vous remercie. Nous prenons une deuxième question à Kinshasa, la dame qui se trouve juste derrière vous. Merci.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela. Je pose ma question à Simon toujours. Le cas de réfugiés burundais au sud qui vous est préoccupante, la fixation du site de refuge est-il tributaire de la volonté de réfugiés ou du HCR? Merci.
La situation des réfugiés sur le site. Bon, d'abord, il faut savoir que lorsque les réfugiés arrivent dans un pays, il faut les mettre dans un périmètre de sécurité, loin de la frontière. Et c'est le gouvernement qui donne la location pour installer un site ou un camp des réfugiés. Et le HCR qui appuie le gouvernement vient avec les tout ce qui est nécessaire pour une vie dans un site ou dans un camp. Maintenant, les réfugiés sont aussi libres d'aller ou de ne pas aller vivre sur le site selon leurs besoins ou selon les affinités, parce que généralement, les réfugiés, quand ils arrivent, ils trouvent des populations frères, sœurs de l'autre côté de la frontière. Donc, ils sont libres de rester ou de ne pas rester sur le camp. Mais lorsque l'assistance est organisée dans les camps, c'est pour que tous les réfugiés puissent se retrouver dans le camp pour une meilleure gestion. Donc, les réfugiés sont dans une certaine mesure libre de vouloir aller ou de ne pas aller dans le camp, mais lorsque le gouvernement décide et l'assistance est prévue dans le camp, il est bon pour eux de se retrouver dans le camp.
Merci Simon. Nous repartons à Goma pour deux nouvelles questions.
Merci, je suis Victoire Mouloavio de la radio-télévision Graben, Goma. Ma question est adressée à vous, Madame Florence. Il y a des polémiques autour d'un probable troisième dialogue en RDC. Pendant ce temps, la MONUSCO insiste sur la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre d'un côté, et de l'autre côté, elle est en train de vouloir accompagner le processus d'un probable troisième dialogue. Qu'est-ce qui explique cette contradiction ou cette paradoxe dans votre chef? Merci.
Alors, je ne vois pas de paradoxe dans la manière avec laquelle nous mettons notre mandat en œuvre. Donc, pour rappel, tout ce qui se fait en République démocratique du Congo a son origine dans les mandats qui nous sont donnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Actuellement, nous travaillons avec la résolution 2348 qui a été adoptée fin mars de cette année. Que nous dit cette résolution, entre autres choses, que elle nous demande de soutenir la mise en œuvre complète de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ce soutien, donc demandé par les États membres, a été, comme je l'ai annoncé en début de conférence, a été réitéré hier lors d'une réunion à New York, où toutes les parties prenantes au dossier congolais, une fois de plus, ont réaffirmé le besoin de mettre en œuvre cet accord. Et mettre en œuvre cet accord, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aller vers des élections libres, apaisées et justes, le plus rapidement possible. Une deuxième question à Goma, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Donc pour nos auditeurs, nos collègues à Goma sont en train d'essayer de faire marcher leur micro.
Merci.
Voilà, on y est.
Petit problème avec mon micro. Oui, c'est Arsène Cambéré pour le compte de Michapi Voice TV ici à Goma. Je reviens sur cette question épineuse des réfugiés burundais Et selon certains réfugiés burundais contactés ici à Goma, ils se disent vivre dans des conditions précaires, isère ci et là, et il n'y a pas tellement un accompagnement, et ils craignent pratiquement pour leur sécurité, et ils voudraient bien sûr regagner en fait leur pays d'origine. En fait, qu'est prévoit le HCR quant à ce?
Alors, avant de donner la parole à mon collègue du HCR, je tiens à préciser que donc tout de suite après les affrontements meurtriers de vendredi, la MONUSCO s'est mobilisée afin de porter une assistance à ces réfugiés et à ces demandeurs d'asile, en apportant une protection à ces réfugiés et ces demandeurs d'asile qui sont venus s'installer à proximité d'une base de la MONUSCO. Nous avons procédé à l'évacuation des blessés, nous avons prodigué les premiers soins et nous avons fourni de la nourriture et de l'eau. Également, comme nous l'avons dit aujourd'hui aussi, le représentant spécial adjoint de la mission s'est rendu sur place dès lundi afin de travailler sur une médiation entre les communautés et de trouver une solution à moyen terme à cette situation. Donc voilà ce que je peux dire du côté MONUSCO, mais Simon du HCR va me compléter.
Voilà. En plus de l'appui médical, on va dire que le HCR qui n'était pas présent au niveau de Kamanyola a dépêché une équipe. Nous avons des collègues qui sont sur place pour suivre la situation. Nous avons envoyé des bâches, comme dit que la situation est précaire. Nous avons envoyé des bâches pour les réfugiés qui sont à l'extérieur de la base de la MONUSCO. 200 bâches ont été distribuées, 200 autres sont en route pour être distribuées. Les collègues du HCR ont rendu visite aux réfugiés et demandeurs d'asile qui sont en détention, pour essayer de parler avec eux et apporter un appui psychosocial à ces réfugiés. Nous sommes en train de sensibiliser sur l'intérêt et l'avantage de l'enregistrement biométrique et de la relocalisation. Ça, c'est très important par rapport à ce groupe de réfugiés qui était à Kamanyola. Maintenant, il y a une autre partie de la question par rapport au rapatriement. L'heure n'est pas à la promotion du rapatriement. Les conditions ne sont pas réunies pour parler de rapatriement maintenant. Donc, on ne parle pas de rapatriement maintenant. Mais toutefois, s'il y a un réfugié ou un groupe de réfugiés qui veulent de manière volontaire retourner chez eux et que le HCR est informé, nous allons voir sans promouvoir, voir comment les aider à repartir. Mais pour l'instant, on ne parle pas de rapatriement des réfugiés burundais.
Et pour être complet sur la question, je m'adresse à Rosé Maria Aranaz qui va nous donner le point de vue des droits de l'homme par rapport à cette situation.
Oui, comme le général a bien dit, et aussi les représentants de la HCR, les événements à Kamanyola sont très sérieux. L'usage excessif de la force, qui était bien documenté, doit être investigué. Nous pensons qu'une enquête, c'est important, qui établit pas seulement les faits, mais aussi quelles sont les raisons pour cet usage excessif récurrent par les forces d'ordre et de sécurité. Et nous sommes en train de préparer notre rapport et notre recommandation qui établit aussi la question des responsabilités des commandements dans les unités militaires. C'est inacceptable que les réfugiés soient tués, même s'il y avait des circonstances qui peuvent justifier une certaine réponse toujours proportionnelle au risque qu'ils ont posé. Merci.
Merci. Donc, retour ici à Kinshasa avec deux questions. Monsieur
Guy Olume, RTNC de développement, Florence ou José. Il y a de cela deux jours, la ville de Kinshasa a vécu sous la psychose, la panique des parents qui allaient chercher les enfants des écoles parce qu'un groupe de personnes pénétrait dans les écoles privées et sortait de force les élèves. Avez-vous un bilan de ces événements et quelle est la lecture de la MONUSCO face à cet incident? Et enfin, peut-on connaître l'identité des assaillants? Merci beaucoup.
Alors, effectivement, nous avons, ce sont nos collègues des droits de l'homme qui ont travaillé, qui nous ont apporté des informations. Donc, Rosé Maria va pouvoir me compléter. Je peux juste vous donner les faits qu'effectivement, des étudiants de l'université, dont les cours sont suspendus car les professeurs sont en grève depuis quelque temps, se sont rendus donc dans plusieurs écoles situées aux alentours du campus et du rond-point GABA pour forcer les élèves à faire grève. Un mouvement de panique s'en est alors suivi, accompagné de rumeurs d'attaques à l'encontre de plusieurs écoles de la ville. Alors, de nombreux parents d'élèves sont venus récupérer leurs enfants dans des établissements scolaires et les écoles ont été vidées dans une atmosphère de panique générale. Des agents de la PNC sont intervenus dans certaines écoles, notamment à Kitambo, pour calmer la situation, mais aucun incident n'a été rapporté.
Rien à ajouter. Vous avez parlé des psychoses. Je pense que c'est une réponse à un état de nervosité qu'il y a en général, mais nous n'avons pas enregistré des incidents, même s'ils ont été rapportés dans les médias, mais on ne les peut pas confirmer. Merci.
Oui, nous prenons une question, monsieur. Voilà.
Merci. Yannick Mlengo, pour les comptes du canal Kin Télévision. Avant-hier, l'opposition congolaise, société civile ainsi que mouvement citoyen Filim ont signé un communiqué dans lequel ils demandent une transition sans Kabila. Quelle analyse faites-vous?
Alors, d'abord, nous ne commentons pas les communiqués des différents acteurs de la vie et politique et civile de la RDC. Concernant la transition, je crois que nous sommes déjà exprimés à ce sujet dans cette conférence. Nous, et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, avec la réunion de hier à New York, nous soutenons la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre et si vous relisez bien cet accord ne fait pas mention d'une transition. Nous repartons à Goma pour deux nouvelles questions.
Oui, moi c'est M. Papio Kito, éditeur du journal Écho d'Opinion. Ma question, je la pose au général. Mon général, je ne sais pas si... on peut encore se répéter sur les questions qu'on a toujours posées, mais c'est par rapport aux militaires de la MONUSCO qui sont jusque-là, comme ils sont en temps de paix ici en RDC, alors que les groupes armés sont en train de semer la terreur dans des villages. Et ils sont toujours dans des villes, hormis peut-être à Beni, où les Tanzaniens sont en train d'appuyer un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la RDC a encore besoin vraiment de militaires de la MONUSCO? Merci.
Le fait que nous ayons perdu un soldat tanzanien cette semaine, alors qu'il se portait au secours de nos partenaires militaires congolais qui étaient attaqués par un mouvement armé, prouve, je crois, que nous sommes loin d'être dans une situation où nous nous contentons d'observer ce qui se passe. Donc, je ne peux pas... souscrire à, je dirais, à l'analyse que vous en avez faite. Je dois dire également que vous ne le voyez pas, parce que c'est le travail quotidien que nous faisons, dans bien des cas, dans bien des circonstances, grâce au réseau d'alerte qui existe, grâce aux appels que nous recevons, soit de représentants de la société civile, soit de nos partenaires militaires congolais, soit d'autres. Nous avons tous les jours, des unités qui quittent précipitamment leur base pour aller se porter au-devant d'une situation potentiellement dangereuse où nous risquons d'avoir des civils tués dans des affrontements interethniques. Et donc, ce sont des choses que nous ne voyons pas, puisque nous ne communiquons pas, je dirais, sur toutes ces actions que nous faisons au quotidien. C'est toujours très difficile de mettre en valeur ce qui se passe bien, et je comprends qu'on puisse regarder plus aisément ce qui semble ne pas bien marcher. Et donc, je répète, la MONUSCO a une mission ici, nous la remplissons conformément au mandat qui nous a été confié, et nous regrettons, et je salue la mémoire de ce soldat qui est mort dans l'exécution de ce mandat cette semaine.
Merci. Une deuxième question ici à Kinshasa, oui, pour monsieur.
Merci. Merci, c'est le petit Baïndé. Je suis du journal L'Avenir. J'ai une seule préoccupation concernant la politique. En fait, vous avez parlé de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pensez-vous vraiment que cette mise en œuvre sera effective parce que le pouvoir en place ne donne pas vraiment l'impression de mettre en œuvre cet accord? Et la MONUSCO, dont la mission est donnée de suivre cette mise en œuvre de l'accord, cette fois-ci, va-t-elle négocier cette mise en œuvre ou va faire pression au gouvernement? Parce que la MONUSCO donne toujours l'impression de ne pas vraiment faire pression au gouvernement.
Alors, une fois encore, ce n'est pas à la MONUSCO de décider de ce qu'elle doit faire, mais elle agit en fonction et du mandat qui lui est confié. À la réunion hier de New York, les participants, parmi lesquels, je vous le rappelle, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, se sont entendus pour la mise en œuvre de cet accord. Vous le savez, la mise en œuvre de cet accord est un processus. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au bout de sa mise en œuvre. Et donc, nous, oui, en fonction et du mandat qui nous est confié, qui est de soutenir la mise en œuvre de cet accord, nous ferons tout notre possible pour effectivement qu'il soit mis en œuvre dans son intégralité, avec toujours l'objectif, c'est d'arriver à des élections libres, justes et apaisées, à apporter la paix et le développement dans ce pays. Et pour ça, nous serons tous engagés. Le représentant spécial du secrétaire général continuera ses bons offices. Il les continue. Il est à New York actuellement. Et nous allons tous dans cette même direction et nous voulons atteindre tous ce même objectif. Nous repartons à Goma pour une question, s'il vous plaît.
D'accord, mon nom c'est Frédéric, je travaille pour Radio Sauti Njili et ma question s'adresse au général Cummings et c'est au sujet de l'éducation, la rentrée scolaire qui reste paralysée dans le sud du territoire de Lubero. Il y a des sources de la société civile qui racontent que les efforts de ceux que vous accompagnez attaquent des positions des miliciens, ils les délogent et puis le lendemain ils se retirent. C'est devenu comme un jeu de ping-pong, en fait. Est-ce que vous êtes informé de cette situation de l'éducation deux semaines après la rentrée? Est-ce que vous essayez de faire également quelque chose?
Merci pour cette question. Je n'ai pas d'informations précises sur la préoccupation que vous évoquez suite à la rentrée scolaire. Ce que je peux dire, c'est que avec les militaires congolais avec lesquels nous travaillons, dans la mesure où nous avons une présence militaire de la MONUSCO à proximité, nous faisons tout ce qu'il faut pour les appuyer, pour les épauler dans leur action au quotidien pour sécuriser les populations qui sont victimes des violences de groupes armés. Avec l'état-major congolais, nous avons un dialogue extrêmement soutenu et régulier où nous identifions ensemble quels sont les endroits où nous estimons qu'il serait sans doute nécessaire d'avoir davantage de forces présentes. Ce dialogue est actuellement en cours. Je sais qu'il y a des réflexions qui ont lieu actuellement pour pouvoir envisager peut-être de renforcer telle ou telle zone. Donc voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. Nous restons à côté de nos partenaires militaires congolais. Nous n'avons pas vocation à nous substituer à leurs responsabilités. Mais nous avons pour mission, je dirais, d'épauler ceux qui sont sur le terrain en ayant ce dialogue que j'évoque avec les autorités ici, à Kinshasa, pour compléter, je dirais, leur connaissance de la situation et voir comment nous pouvons les aider.
Nous revenons à Kinshasa pour une question. Oui, monsieur, sur la gauche.
Merci beaucoup, madame. C'est Patient Tambana, je suis journaliste de Bénin, mais présentement ici à Kinshasa. Madame, depuis que ma question c'est au général, Ma question s'adresse au général. La question qui dit, depuis que la MONUSCO est arrivée dans les territoires de Beni, Lubero, on constate qu'il y a maintenant multiplicité des groupes rebelles avant qu'ils ne soient là, avant qu'elles ne soient là plutôt. Alors, qu'est-ce qui explique cela, mon général? Mais aussi, de Beni jusqu'à Kassindi, c'est toujours un territoire de Beni et Kiavignong, où il y a eu attaque des groupes Mai Mai, où il y aurait même une noyade de la population, il y a eu même des morts là-bas. Est-ce que vraiment la MONUSCO est en train de penser à aller installer sa base là-bas, puisque jusque-là, vraiment, il n'y a pas assez d'effectifs de notre armée sur place? Merci.
Vous l'avez dit, il y a sans doute besoin d'avoir un niveau d'effectif de forces armées congolaises supérieur à celui qui existe aujourd'hui, et c'est l'objet d'une discussion que nous avons avec l'état-major. Maintenant, faire un lien entre la multiplicité des groupes armés et la présence de la MONUSCO, je pense que ce n'est pas exactement de cette manière qu'il faut voir les choses. D'abord, est-ce que ce sont des groupes armés qui se multiplient ou est-ce que ce sont des groupes armés qui se divisent et qui ont donc de nombreuses petites factions qui émergent? On peut voir les choses aussi de cette manière-là. Le fait est que oui, cette zone reste extrêmement fragile, elle reste extrêmement sensible. C'est bien la raison pour laquelle nous avons toujours des opérations qui y sont conduites et c'est la raison pour laquelle la FIB a cette zone d'action, je dirais, de manière prioritaire. Aussi longtemps que la MONUSCO sera présente, et aussi longtemps que ce seront les termes du mandat que nous avons aujourd'hui, nous continuerons à mener des actions contre ces groupes armés. Cela ne doit faire aucun doute pour personne. Nous le ferons soit seuls, ou nous le ferons en liaison dans des opérations conjointes avec les forces armées congolaises. Et je peux simplement vous dire que nous avons en permanence des opérations qui sont préparées. Je pense même que parfois ceux qui peuvent être la cible de nos opérations sentent venir le vent du boulet et que cela, je dirais, perturbe leurs intentions. Voilà simplement ce que je peux dire.
C'était la dernière question de cette conférence de presse. Merci aux auditeurs de l'avoir suivi. Merci aux journalistes d'y avoir participé. Merci aux invités d'être venus. À la semaine prochaine. Bonne semaine.